France Culture. Question du soir, Quentin l'a fait.
En cette période de vacances scolaires, certains se trouvent peut-être sur la route du retour. Alors depuis quand voyage-t-on et surtout, pourquoi faire ? Notre invité, l'historien Sylvain Vénère, propose d'y répondre en se plongeant dans le 19e siècle, durant lequel se sont enracinées nos façons contemporaines de voyager et subséquemment notre rapport au monde, au départ, à l'ailleurs. Alors quand a émergé la figure du touriste, celle de l'aventurier ? Comment l'imaginaire romantique qui a entouré la notion de voyage au 19e siècle a-t-il perduré jusqu'à aujourd'hui ? De quelle façon l'ailleurs a-t-il façonné les conceptions que nous avons du voyage ? Un invité, je le disais, pour en discuter. Sylvain Vénère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes et vous avez fait paraître un ouvrage passionnant intitulé « Pourquoi voyager ? 17 leçons du 19e siècle ». C'est au CNRS Édition. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Et une question pour commencer, Sylvain Vénère. Est-ce que la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui entraîne un bouleversement profond dans nos manières de voir, de concevoir le voyage, l'ailleurs, tel que ces notions s'étaient forgées au 19e siècle ?
Eh bien, on aurait pu le penser. Ça aurait même sans doute été une affirmation un peu positive pour commencer cette conversation. Mais c'est sans doute pas vrai. Moi, j'avais cru... Aussi un petit peu à l'époque du Covid, au monde d'après, où on aurait imaginé, vous vous souvenez peut-être du printemps 2020, où on avait l'impression d'observer un ciel qui était guéri des cicatrices que lui font la circulation aérienne. En fait, le monde d'après, il ressemble beaucoup au monde d'avant. On a autant de touristes aujourd'hui à travers le monde qu'il y en avait en 2019. Donc, s'il doit y avoir une prise de conscience, c'est quelque chose qui est sans doute un peu lent, un peu diffus. Évidemment, on parle beaucoup de surtourisme, on s'inquiète de ce que nos voyages d'agrément font à l'ensemble de la planète, surtout à une époque où ces voyages d'agrément ne sont plus l'apanage de l'Occident. Mais en réalité, on retrouve des interrogations un peu différentes, hein, mais qui datent du 19e siècle sur la légitimité qu'il y a à se déplacer dans le seul but de jouir du spectacle du monde.
Alors justement, vous êtes historien, vous faites de l'histoire et vous tentez de comprendre dans votre ouvrage, de saisir plutôt les motifs qui président au voyage. Pourquoi vous focalisez sur le 19e siècle en particulier ? Que se passe-t-il dans ce siècle qui nous permet de mieux comprendre nos façons contemporaines de voyager ?
Eh bien, on pourrait penser que c'est peut-être à cause de la révolution des transports, la navigation à vapeur, le chemin de fer. Mais en réalité, c'est quelque chose qui précède cette double révolution, quelque chose dont la littérature a très bien rendu compte, quelque chose qui fait qu'on se dit, au début du 19e siècle, que les anciens motifs qui justifiaient de prendre la route, le pèlerinage par exemple, ou le voyage savant, ou le voyage d'études, ou le voyage de santé, tous ces motifs tendent à exister bien sûr encore, mais surtout ils sont remplacés par quelque chose de neuf, la légitimation du voyage entrepris dans le seul but de jouir du spectacle du monde, ce qu'on appelle le voyage d'agrément. Est-ce qu'on définit à partir du tout début du 19e siècle comme le tourisme ?
Quand est-ce que la figure du voyageur émerge véritablement, cette figure contemporaine, j'allais dire, telle que nous la comprenons nous-mêmes ?
Nous comprenons ça vraiment une histoire très longue, hein, qui a au moins 2 siècles et demi. C'est deux figures en réalité, c'est un couple. C'est les voyageurs d'un côté, les touristes de l'autre. Et qu'est-ce que c'est qu'un voyageur si ce n'est quelqu'un qui... part pour jouir du spectacle du monde et qui prétend ne pas être un touriste. Et qu'est-ce que c'est qu'un touriste dans les yeux du voyageur, sinon quelqu'un qui part pour les mêmes raisons que lui, mais dont on critique le fait qu'il n'est pas capable de mettre en œuvre les modalités qui lui permettront de véritablement jouir du spectacle du monde.
Vous voulez dire que le voyageur méprise un tantinet le touriste, que du moins il tente de s'en distinguer très largement ?
En fait, les deux sont les mêmes. Il y a et c'est en ça aussi que la littérature, parfois d'ailleurs, malgré elle, nous renseigne sur cette histoire-là, c'est que les écrivains du 19e siècle en particulier ont beaucoup posé aux vrais voyageurs. C'est, et en cela, se distinguer de la masse des touristes. D'abord parce qu'ils prétendaient faire d'autres voyages que les voyages des touristes, mmh. et que même quand ils faisaient les mêmes voyages que les voyages des touristes, ils prétendaient pouvoir en tirer davantage de sensations. C'est une phrase de Désiré Nisard, par exemple, un écrivain bien oublié du 19e siècle, qui disait « Je fais grand cas du paysage que le touriste dédaigne ». Mais Nisard était d'abord un touriste.
Ce qui est passionnant dans votre ouvrage, Sylvain Vénère, c'est que vous vous appuyez sur des œuvres et sur des auteurs pour tenter de comprendre ces transformations profondes de notre conception du voyage. Je voudrais qu'on commence avec Chateaubriand, car vous vous identifiez à travers un ouvrage en particulier intitulé « Itinéraire de Paris à Jérusalem », un tournant majeur dans notre conception du voyage et de l'ailleurs, parce que c'est selon vous peut-être l'ouvrage qui marque l'émergence du jeu, de la première personne dans le récit de voyage.
Alors, c'est ce que dit Chateaubriand, qui dit que l'intérêt de son livre, ça n'est pas les descriptions des paysages, des peuples qu'il rencontrait, mais ce sont, comme il le dit dans la troisième préface à son livre, les émotions, les sentiments, les aventures ressenties par le voyageur.
Son récit personnel,
alors que lui-même, d'ailleurs, avait dit qu'il était parti là-bas pour chercher des images dans le but du vrai livre qu'il allait construire, qui était « Les martyrs ». Finalement, il publie le récit de voyage à Jérusalem en 1811, qui est encore publié aujourd'hui, qui est encore lu aujourd'hui, qui est encore étudié aujourd'hui, là où plus personne ne lit les martyrs. Et pourquoi ? Parce qu'il a inventé quelque chose à ce moment-là. Alors, il n'est pas tout seul. Si on sort des frontières de la France, on a Goethe, on a Laurent Sterne, on en a d'autres hein, qui, au même moment, font ce passage-là, en quelque sorte, à ce qu'on n'est bien obligé d'appeler, parce que c'est finalement comme ça que c'est resté dans l'histoire, le récit de voyage littéraire.
Alors écoutons justement un extrait de cet itinéraire de Paris à Jérusalem de François René de Chateaubriand.
Je fus tout le chemin occupé d'un rêve assez singulier. Je me figurais qu'on m'avait donné l'Attique en souveraineté. Je faisais publier dans toute l'Europe que quiconque était fatigué des révolutions et désirait trouver la paix vint se consoler sur les ruines d'Athènes où je promettais repos et sûreté. J'ouvrais des chemins, je bâtissais des auberges, je préparais toutes sortes de commodités pour les voyageurs, j'achetais un port sur le golfe de Lépante afin de rendre la traversée d'Orente à Athènes plus courte et plus facile. On sent bien que je ne négligeais pas les monuments. Les chefs-d'œuvre de la citadelle étaient relevés sur leur plan d'après les ruines.
Je trouve ces lignes lues par Juliette Moëlic de l'équipe de Questions du Soir magnifiques. Comment Chateaubriand, à travers cette œuvre-ci, dessine la figure du touriste, l'invente pratiquement d'ailleurs?
Oui, alors lui prétend pas faire ça parce qu'il prétend être un voyageur savant et
évidemment,
surtout un pèlerin.
Évidemment.
Mais en réalité, ce qu'on voit très 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 bien dans cet extrait-là, c'est qu'il est aussi un touriste qui récupère des tas de petits objets sur place. Il prend un morceau du Parthénon, par exemple, et comme il le dit en citant la fontaine, quand je verrai ces objets, je me dirai j'étais là, quelque chose m'advint. Et en ça, oui, il s'imagine un petit peu transformer l'Attique en ce qui pourrait être, vu de nos yeux d'aujourd'hui, une sorte de parc à thème, en quelque sorte, dans lequel les touristes pourraient venir goûter l'Antiquité grecque.
C'est vous que je cite désormais, Sylvain Vénère, un extrait de votre ouvrage intitulé « Pourquoi voyager 17 leçons du 19e siècle ?» Vous écrivez, 3 ans plus tôt, le voyage en Orient d'Alphonse de Lamartine et le voyage en Suisse d'Alexandre Dumas avaient fait triompher ce motif de l'impression que de nombreux auteurs, à commencer par Stendhal lui-même, acclimataient au genre du récit de voyage. Contemporain des mémoires d'un touriste, Georges Sand ou Théophile Gautier exprimaient également leur mépris pour les voyages uniquement préoccupés de connaissances historiques. Fin de citation. Je voudrais qu'on revienne sur ce motif de l'impression. C'est important pour comprendre ce qui se dessine justement à travers ces décennies qui composent le 19e siècle. De quoi s'agit-il ?
Oui, c'est important. 3 ans plus tôt, c'est parce qu'on est donc on était en 1838, mm-hmm. au moment où Stendhal publie les mémoires d'un touriste. L'impression, c'est le grand motif qui court tout au long du 19e siècle. C'est ce qui justifie le voyage. Vous ne partez pas à la recherche de connaissances. Vous n'allez pas à transformer le monde. Vous n'êtes pas un de ces voyageurs de long cours dont parlaient Rousseau, les marchands, les marins, les soldats, les missionnaires. Vous partez uniquement à la recherche d'impressions. Et ça, c'est ce qui peut réunir les touristes et les voyageurs, enfin, cette espèce de couple bizarre qui apparaît à cette époque-là. Les deux vont chercher des impressions, mais les écrivains, précisément parce qu'ils sont des écrivains et qu'ils sont capables de poser sur le papier ce que Lamartine appelait le regard écrit, ils ont cette science de l'écriture qui leur permet d'exprimer leurs impressions. Ça a l'air bête d'être dit comme ça, mais c'est exactement comme ça que ces gens le voyaient. Et même si vous n'êtes pas écrivain, vous pouvez avoir le sentiment que ce qui vous intéresse dans vos voyages, c'est précisément ces impressions qui sont tout à fait indépendantes des voyages que pouvaient faire autrefois les savants, les étudiants, les malades ou les pèlerins.
Est-ce que l'on voit déjà surgir, apparaître au mi-temps du 19e siècle une forme de critique de ce tourisme-là, sans l'appeler tourisme de masse, mais en tout cas de ce que ce tourisme peut impliquer sur les êtres, les territoires, les paysages?
Oui, bien sûr. Dès les années 1860, il y a un mot d'ordre qui apparaît, c'est celui de la démocratisation du tourisme. Alors évidemment, on pourra toujours dire que dans les années 1860, c'est absurde parce que seule l'élite sociale était touriste. Mais en même temps, on aurait beau jeu de répondre à cette objection, le fait qu'encore aujourd'hui, en 2025, tout le monde n'est pas touriste, tout le monde ne voyage pas, il y a des tas de gens qui partent pas en vacances. Donc il faut distinguer d'une certaine façon la façon dont émergent des imaginaires, comme celui de la démocratisation du tourisme, et la façon dont ensuite émergent des pratiques, qui en général leur sont postérieurs, qui essaient de s'adapter à ce nouveau discours. Et très vite, évidemment, ce qui apparaît, c'est que si on commence à avoir... Si la démocratisation du tourisme se produit véritablement, elle va engendrer des catastrophes. Et ces catastrophes, ce sont des catastrophes qui sont dites du point de vue de l'élite sociale. C'est-à-dire, en gros, on n'a pas attendu François Mauriac et les imprécations de François Mauriac contre les congés payés en 1936 pour... s'agacer de la présence de masse touristique dans des endroits que, du point de vue de l'élite sociale, on croyait réservés à ceux qui savent jouir du spectacle.
Mais comment qualifier la menace, si je puis dire? C'est quoi? C'est la dénaturation des lieux? C'est, j'allais dire, une menace aussi qui porte sur des modes de vie? Où se loge la critique?
C'est le simple fait que les touristes sont là. Et que donc,
leur simple présence.
Oui, comme disait Renaud dans Hexagone dans les années 1970, qui dénature par leur simple présence la beauté de tous les paysages. C'est sauf que ça, on le dit depuis la seconde moitié du 19e siècle, ce qui va ensuite engager toute une série de pratiques et de politiques bien précises qui viseront à essayer d'isoler des paysages naturels pour la jouissance des touristes, avec ce risque énorme, évidemment, que ces paysages naturels, on les construit d'ailleurs parfois au prix de grandes violences, ce qu'a bien montré mon ami l'historien Guillaume Blanc à propos des parcs naturels africains.
Et que l'on a reçu ici dans Question du Soir à propos de cet ouvrage.
Et cette problématique-là, elle est longue, elle est lente. C'est quelque chose qui se met en place vraiment dès la seconde moitié du 19e siècle. Et toutes les ambiguïtés, comment est-ce qu'on protège les monuments? Comment est-ce qu'on protège les paysages? Comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que, malgré ce qui va être ressenti comme un problème, c'est-à-dire les progrès des moyens de transport et de communication, on puisse sauvegarder une forme d'authenticité du voyage?
Alors, il y a une anecdote que je trouve absolument géniale. En 1849, Gustave Flaubert et Maxime Ducamp ont tous les deux 27 ans. Ce sont déjà de vieux amis, c'est ce que vous écrivez, qui rêvent d'art et de voyage. Qu'est-ce que leur façon de voyager, leur façon très différente en l'occurrence de voyager, notamment dans leur rapport à l'image et à ce qu'on appelait pas encore la photographie, mais le daguerréotype, qu'est-ce que justement cela va provoquer comme embrouille entre les deux écrivains?
Bon, ils ont plein de raisons de s'embrouiller, je pense, dans le cours de leur vie, mais effectivement, en Égypte, ils n'ont pas du tout le même rapport au spectacle.
Et à la contemplation.
Et à la contemplation. Ducamp s'est fait former à l'époque à la technique de la photographie qui est toute neuve. Il va rapporter d'Égypte des photographies qui vont lui permettre de publié le premier grand livre de voyage de photographie, le Nil. Et Gustave Flaubert, lui, n'en veut pas du tout. Parce qu'il est l'héritier de cette conception que Lamartine avait définie comme celle du regard écrit. Flaubert, en Égypte, dit « il faut être œil tout bonnement ». Mais Flaubert, lui, après, refuse de faire un récit de voyage à partir de ses notes. Il en a pris plein.
Être œil tout bonnement, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire se contenter de regarder, d'observer, de contempler?
Exactement. Jouir du spectacle du monde. Et, dans le cas de Flaubert, qui est un artiste et un très grand écrivain, refuser d'utiliser ses notes pour produire un livre, un récit de voyage. C'est un grand débat du 19e siècle, je pense qu'il dure encore aujourd'hui. C'est ce 19e siècle qui invente la littérature de voyage, qu'ensuite, aujourd'hui encore, on voit peupler des étagères de librairies et de bibliothèques. Flaubert veut pas. Il est du parti de ceux qui, comme à l'époque, un critique littéraire célèbre qui était Jules Barbet de Revilly, estime qu'on peut pas faire de la bonne littérature avec des observations de voyage, et pour une bonne raison, c'est que la littérature de voyage, dit Barbet, pense Flaubert, c'est une littérature qui respecte l'itinéraire de votre voyage. Or, respecter l'itinéraire de votre voyage, c'est le contraire d'une partie de l'art de l'écrivain, qui est précisément la composition. Et si votre livre, vous ne le composez pas, mais que vous le produisez uniquement à partir de ce qui est votre itinéraire de voyage, même si vous êtes capable, mieux qu'un autre, parce que vous êtes plus doué qu'un autre, de restituer la profondeur des émotions que vous avez ressenties face au spectacle du monde, ça restera un genre inférieur.
On parlait un peu plus tôt, Sylvain Vénère, de mépris, de distinction. Est-ce que déjà au XIXe siècle, on observe la tendance à vouloir peut-être sortir des sentiers battus, à s'extirper des sentiers classiques pour forger ses propres trajectoires, ses propres cheminements et ses propres aventures?
Oui, mais en même temps, c'est très pervers, parce que les guides de voyage qui apparaissent au XIXe siècle, les grandes collections de guides qui apparaissent au XIXe siècle, défendent cette idée-là. C'est à la fois, on vous dit dans le même guide qu'il faut absolument aller voir tel paysage 3 étoiles, tel monument 3 étoiles.
Pour cocher les cases.
Pour cocher les cases, et en même temps, on va vous expliquer que ce qui est important dans un voyage, c'est l'imprévu. Que finalement, ce que vous allez ressentir le plus profondément, c'est l'inattendu. Et donc, il faut jongler avec ces deux impératifs. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le siècle, effectivement, je pense que c'est ce que vous avez en tête, on va avoir des propositions beaucoup plus radicales en la matière. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'aventure.
Alors avançons justement dans le siècle et la discussion. Voyager, vous l'écrivez, vous le dites, c'est aussi créer une conception de l'ailleurs. Je voudrais qu'on aborde ce que dit, ce que présente Michelet au sujet de l'ailleurs. Quelle est justement sa conception de l'ici et l'ailleurs, cette distinction qu'il dessine et qu'il trace?
Alors, Michelet, lui, ne fait pas cette distinction pour une bonne raison, c'est que cette distinction, ce que nous on appelle l'ailleurs avec un grand A, c'est assez récent en réalité, ça a quelques décennies. Au 19e siècle, on pense pas les choses comme ça. Quand on parle de l'ailleurs, quand on pense à Montaigne qui dit par exemple « nous pensons toujours ailleurs », on pense pas nécessairement à un référent géographique. Mais on peut par contre, à la lumière des travaux de sciences humaines et sociales ou de critiques littéraires de ces dernières décennies, lire de cette façon-là les carnets de Michelet, son histoire de France, son histoire de la Révolution française, et essayer de comprendre comment un historien pour qui moi j'ai une passion, extraordinairement voyageur, voyageur parce qu'il va chercher des archives un peu partout en France, voyageur parce qu'il va essayer d'identifier à travers les paysages, les scènes, les types qu'il observe, ce que lui pense être le corps de la nation française dont il est en train d'écrire l'histoire. Comment est-ce que cet historien qui a été tellement voyageur, en fait, a construit une grande partie de sa pensée, non pas à partir de ce qu'il a vu, mais précisément de ce qu'il n'a pas vu et qui constituait pour lui un ailleurs. Quand Michelet invente la notion de Renaissance, par exemple, il le fait pour partie parce qu'à 4 reprises, il voyage en Italie, mais il le fait aussi parce qu'en Italie, il se rend compte de ce qu'il ne voit pas. Par Venise, il ne voit pas l'Orient. Par l'Italie, il ne voit pas ce que lui appelle les Juifs d'Espagne, expulsés après 1492 et qui arrivent chargés de leur histoire. En Italie, il ne voit pas l'Empire ottoman et notamment le vizir Ibrahim à qui il dédie un énorme chapitre de son volume sur la Renaissance. Et ces images de l'ailleurs qu'il y a chez Michelet. Vous savez, Michelet, on dit souvent que c'est quelqu'un qui pense en images. Et que peut-être, du notre point de vue à nous, d'historien d'aujourd'hui, il est peut-être fautif dans toute une partie de son raisonnement, mais le fait qu'il a pensé en images lui a permis d'inventer des choses qu'il n'aurait sans doute pas inventées autrement. La colonne de feu de la Renaissance, comme il dit, il la voit parce qu'il y a ce voyage de l'armée de Charles VIII en Italie, cette France qui est en avance à la fin du XVe siècle sur l'Italie militairement, mais sinon en retard sur tout. Et que c'est cette étincelle entre l'avance militaire française son retard sur toute autre chose qui produit la Renaissance dans son esprit.
Autre idée qui se cristallise au sujet du voyage au XIXe siècle, l'idée selon laquelle l'éloignement dans l'espace s'accompagne d'un éloignement dans le temps. Justement, comment rapprocher ces deux notions-là, l'espace et le temps ?
Oui, alors c'est quelque chose qui vient d'assez loin en fait, qui vient plutôt du XVIIIe siècle, mais dont les gens du XIXe sont évidemment les héritiers. C'est cette idée qu'il existe un progrès unique, indissolublement technique et humain, et qui emporte toute l'humanité. Et que finalement, quand vous observez des sociétés un peu partout à travers le monde, elles sont fixées à un certain stade sur cette échelle unique du progrès. C'est une idée qui a été longue à disparaître au XXe siècle et qui, je pense, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, continue malheureusement à aveugler les meilleurs esprits. Incapables de penser la différence dans l'espace sans penser la différence dans le temps. Or, ça va avoir des conséquences énormes, puisque si vous pensez les choses de cette façon-là, vous pouvez assez logiquement, et parfois même en toute bonne conscience, vous imaginez que ceux qui sont le plus avancés dans la flèche du progrès sont amenés à aider ceux qui sont le moins avancés à arriver au stade où eux-mêmes en sont, et ça, c'est quand même la base de toutes les politiques de colonisation du XIXe siècle.
Qu'est-ce qui définit le voyageur romantique et qu'est-ce qui permet de faire surgir là aussi cette image ?
L'image.
Cette image du voyageur romantique, image parce que figure centrale d'un imaginaire du voyage.
Ben d'abord, cette idée que le voyageur romantique, même si on se qualifiait pas comme ça à l'époque, place son moi au centre de son voyage. C'est-à-dire là où, disons, alors si on veut faire une opposition, mais qui est très de notre époque, hein, qui n'était pas pensé comme ça au XIXe siècle, entre le voyageur classique qui serait intéressé par l'acquisition des connaissances, voire la production de connaissances, dès lors qu'il s'aventure dans un territoire inconnu des Européens, et à ce voyageur classique, on pourrait opposer le voyageur romantique, qui lui n'a pas de difficulté à arpenter les grands chemins déjà bien balisés, dans la mesure où son seul regard est capable de transformer l'expérience du voyage.
Comment est née, cette fois-ci, la mystique de l'aventure et comment cette mystique-là est encore, j'allais dire, au cœur de nos représentations contemporaines, cette fois-ci ?
Oui, alors c'est quelque chose qui est, je pense, relativement incontestable. À partir des années 1880 et jusque dans les années 1910, en gros, quand on parle d'aventure, on parle plus de la même chose qu'avant. Avant, l'aventure, c'était quelque chose qui pouvait vous survenir, le mot est très ancien, mais que vous ne vous vantiez pas trop d'avoir cherché. Ça pouvait être un naufrage, par exemple. Si vous faites naufrage, vous pouvez raconter une aventure qui vous est arrivée, c'est une aventure de naufrage, mais vous n'êtes pas naufragé volontaire, comme disait le docteur Bombard. À partir des années 1880, c'est un petit peu différent. On va commencer à constituer l'aventure la mettre au centre d'une mystique qui fait que l'aventurier va devenir un personnage positif, ce qu'il n'était pas du tout avant. Celui qui cherche les aventures pour elle-même va devenir presque une sorte d'idéal pour certaines personnes. Chercher l'aventure, ça peut décider du sens d'une existence.
C'est la vie intense ?
Ça peut être ce que Sandrard s'appelait la vie intense, par exemple, mais ça peut être plus simplement le dévoilement du sens caché du monde, en quelque sorte. Et c'est ce qui fait qu'à partir des années 1880, on va beaucoup faire coïncider le désir d'aventure et le désir poétique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que Rimbaud, qui meurt en 1891 et qui n'a jamais dit qu'il était un aventurier, qui a même souvent d'ailleurs tout fait pour montrer le contraire, va devenir cette figure tutélaire de l'aventure. Alors la grande question qui se pose, en tout cas qui moi m'a beaucoup obsédé, c'est pourquoi est-ce que cette aventure moderne, cette poésie en acte, ça s'invente entre ces années 1880 et ces années 1910. On est obligé, enfin, une interprétation crédible, c'est de dire qu'en gros, à cette époque, la plus grande sécurité et la plus grande rapidité des moyens de transport et de communication, la disparition des taches blanches sur les cartes géographiques qui fait que l'inconnu semble disparaître, et la disparition de la sauvagerie du monde, en tout cas telle que la présente la propagande coloniale, fait qu'on a le sentiment qu'un monde est en train de s'effondrer. Et que l'aventure surgit à ce moment-là comme une réaction nostalgique pour essayer de rétablir le prestige de l'espace.
Pourquoi voyager? 17 leçons du 19e siècle, c'est signé Sylvain Wehner. Merci d'être venu nous en parler au micro de Questions du soir. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Roxane Poulin, Bertie Bourdon à la réalisation. C'était Léa Racine, Nicolas Bonnet à la technique. Et on souhaite un bon retour à celles et ceux qui ont eu la chance de partir en voyage.